entendu. Coup de calage. Maintenant, on a l'habitude d'entendre des calages. Mais en pleine journée, je ne m'attendais pas. La dernière fois, là, c'était là. Juste ici, une grenade, plus rafale. Tous les jours, ça va se passer.
Nous sommes sur la place des Amaryllis, dans le quartier des Moulins à Nice, où doit ouvrir d'ailleurs dans quelques jours un petit poste de police municipale. Et alors, la manière dont le tueur a opéré, Olivier, est assez bluffant.
Oui, parce qu'effectivement, ça s'est passé l'après-midi. Les personnes qui ont été touchées par ce tir de Kalachnikov, enfin, je dis ce tir, c'est une rafale, hein, étaient attablées à la terrasse d'un café devant un magasin de bonbons sur une place. Le tireur est arrivé en trottinette électrique. Il a été déposé par un véhicule. Il a pris sa trottinette. Il est reparti en trottinette et entre-temps, il a fait feu avec une Kalachnikov. Le procureur a précisé que les deux personnes mortes âgées de 38 et 57 ans ne présentaient pas d'antécédents en lien avec le trafic de stupéfiants, donc ne sont pas liés a priori au narcotrafic. Parmi les six autres victimes, toutes blessées par balle, trois sont en urgence absolue. Le procureur a d'ailleurs indiqué que trois d'entre elles étaient connues de la police pour narcotrafic. Nous sommes dans un quartier des Moulins qui malheureusement a connu des problèmes très récemment. Des faits sont survenus le 8 mai au soir. Le 9 mai, d'ailleurs, le procureur fait un lien avec les violences de ces derniers jours. Rappelons que ce quartier est un quartier de reconquête républicaine. Visiblement, il y a encore du travail.
Oui, qui a été rénové et à un quart d'heure à pied doit ouvrir après de longs travaux. Mais la prochaine grande gare TGV, c'est un projet de Nice. Abel, qu'est-ce que tu en penses?
Encore un fait divers lié au narcotrafic. Et quand on voit un petit peu le modus operandi avec ce tireur à trottinette qui tire dans le tas sans vraiment viser, peut-être même que c'est un mineur, peut-être que c'est un jeune qui fait partie du phénomène des charcleurs, ces jeunes à qui on promet de donner plusieurs milliers d'euros, on fournit une Kalachnikov pour accomplir des missions fallacieuses. Donc je pense que ça va donner aussi un petit peu d'humilité à Éric Ciotti, parce qu'on est face à une situation qui est encore plus dramatique que tout ce que l'on peut imaginer. Et le retard de la République, c'est d'avoir considéré cela pendant longtemps comme une sorte de délinquance des quartiers, de quartiers avec des petits jeunes qui sont perdus, alors que ces gens ont la volonté de devenir des vrais mafias. Eux, leur modèle, c'est vraiment de devenir comme les mafias italiennes, comme les grandes familles new-yorkaises. Mais le problème que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de jeunes qui pensent qu'en jouant aux jeux vidéo, à Call of Duty, on peut manier une Kalachnikov, et il y a un manque de professionnalisme. Mais il faut en profiter pour essayer de stopper l'aggravement de la situation maintenant, parce que le jour où tous ces jeunes vont se professionnaliser, et le jour où on va tomber vraiment dans une société d'enfants soldats, le combat sera perdu. Et beaucoup de policiers le disent, je pense à Linda Kebab, à Abdoulaye Kanté. Là, on est à un carrefour dans 10 ans. Soit la France est un narco-État, il ne faut pas avoir peur de le dire, soit on aura réussi à sauver un petit peu les meubles. Parce que qu'est-ce qui caractérise, pour finir mon propos, ces trafiquants? Il y a le trafic de drogue, le trafic d'armes, la prostitution des mineurs, les règlements de compte, mais aussi la capacité de corruption que l'on a énormément minoré, et déjà les langues commencent à se délier un petit peu.
En tout cas, toi, tu ne serais pas étonné d'apprendre que le tireur qui court toujours, il n'y a pas eu d'interpellation dans cette affaire pour l'instant, mais que ça ne serait pas surprenant que ce soit mineur.
Ça peut être un mineur de 14-15 ans, malheureusement.
Emmanuel Devilliers. Mais les faits sont très spectaculaires, d'autant spectaculaires que les protagonistes n'ont pas craint les poursuites qui vont être maintenant très fortes en termes d'enquête, et la police française est particulièrement efficace, chacun le sait. En réalité, on peut commenter tous ces cas d'espèce à longueur d'émission. Le problème, il est structurel, c'est-à-dire tant qu'il n'y aura pas un caractère éminemment dissuasif de la répression de justice avec tous les outils de logistique, d'emprisonnement, de place donc d'emprisonnement et de rapidité des juges, on en sera là. Si les protagonistes n'ont pas la crainte d'être mis en prison pour une très longue durée.
Non, ils n'ont pas la crainte, parce que quand tu fais ça en plein milieu
de l'après-midi... Et dans des conditions d'emprisonnement, sans doute à certains égards plus strictes que l'idée qu'ils en ont par des camarades, on sera dans cette dérive qu'évoquait Abel à l'instant.
Barbara, sachant qu'un policier m'avait dit que c'était la guerre des territoires qui était initiée possiblement par la dizaine mafia qui essaie de mettre la main sur certains quartiers de Nice. Quoi. C'est, voilà. Barbara.
Mais... la rénovation de ce quartier, quartier des Moulins, sur la, on va dire, la quinzaine d'années qui s'est écoulée, c'est 220 millions d'euros. Voilà. Donc, je me rappelle qu'ici, on avait eu un petit échange avec Monsieur Bouamran de Saint-Ouen qui nous expliquait qu'il fallait créer du beau et que quand le quartier était beau, eh ben ça résolvait la délinquance. C'est bien triste et je suis désolée, mais non. C'est-à-dire que bien sûr qu'il faut qu'il y ait des réhabilitations de ces quartiers, ça ne fait pas l'ombre d'un doute.
Et c'est plutôt mais pas mal ce qui a été fait. Hein, moi,
ce qui a été fait est pas mal, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'on a une problématique enquistée qui se double de la question du chômage. C'est des quartiers aussi où on a une surreprésentation de population au chômage, avec aussi beaucoup de gens qui ne travaillent pas, c'est-à-dire qui sont même pas de toute façon dans l'emploi, parce qu'ils n'en ont pas les qualifications. Et on a des quartiers dans lesquels on a de l'échec scolaire de masse. Comment vous voulez qu'on puisse s'en sortir? Maintenant, moi, on arrive là au bilan de notre cher président. Il a attendu 2025 pour faire enfin une loi, pour avoir un arsenal judiciaire qui permette enfin de comprendre ce que Abel a dit, c'est-à-dire qu'on est en train de s'orienter vers un état dans lequel les narcotrafiquants vont avoir la main partout. Le PNACO, le durcissement d'un régime carcéral pour tous ces gens-là, le régime des repentis qui est refondé, le fait qu'on ait créé une infraction d'association criminelle sur le modèle italien. Mais pourquoi tout ça n'a pas été fait avant? Il aura fallu attendre des meurtres, des crimes. On a eu en 2023 139 morts. Et là, en plus, c'est des innocents. Alors, excusez-moi de dire, en plus, c'est des innocents. Oui, parce que parfois, ils se règlent leur compte entre eux. C'est bien triste, mais c'est des règlements de compte entre eux. Là, excusez-moi, vous passez pour aller faire vos courses parce que ça s'est passé devant une épicerie et vous prenez une balle de Kalachnikov et les blessés.
J'ai retrouvé 17 douilles. Hein.
17 douilles à la Kalach quand même. Donc moi, effectivement, bon, Monsieur Ciotti n'y peut pas grand-chose parce que là, on est sur un niveau. Et puis, Abel a eu raison d'insister sur la question de la corruption, notamment les crypto-actifs. Il y a un gros travail à faire sur la question du blanchiment de l'argent de la drogue, parce que le blanchiment se fait à la fois à la petite échelle, les nourrices dans les quartiers, etc. Mais ça se fait aussi à grande échelle, avec parfois un recyclage de l'argent de la drogue dans des circuits qui sont tout à fait légaux. Donc là, il va falloir sérieusement que l'État se penche là-dedans, au lieu d'aller chercher les poux dans certaines têtes qui servent à rien.
Et l'autre chose aussi qu'on oublie, eux, ces gens ne réfléchissent pas comme nous. Nous, on voit qu'il y a un écho médiatique et on est accablé. Pour eux, c'est un trophée. Ils ont une logique mafieuse, c'est-à-dire que quand ils voient que dans les médias, ça fait du bruit, ben, eux, ils sont contents. Parce que ça permet aussi d'envoyer un message à tous les narcotrafiquants du coin. L'écho médiatique fait partie de la guerre de territoire. Attention, ça, il ne faut pas l'oublier. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en parler, mais il faut le prendre en cause. Et comme je disais, le manque de professionnalisme. J'ai donné deux exemples très simples sur Marseille. Il y a un jeune charcleur qui est en prison, qui venait d'assassiner. Ce sont les jeunes tueurs à gages mineurs, en fait, à qui on propose des missions. Charcler, ça veut dire tuer quelqu'un, et jouer de la guitare, ça veut dire tirer à la Kalachnikov dans leur jargon. Ce jeune venait de tuer une personne. Il rentrait chez lui. Il a vu un monsieur qui avait juste un tapis de prière. Il a cru que c'était un fusil qui était caché. Il a tiré sur le monsieur. Et quand il est arrivé pour l'exécuter, il s'est rendu compte que, ah ben, en fait, c'était pas un fusil, c'était juste un tapis de prière. Donc, ces jeunes, ils sont pas professionnels. Et on risque d'avoir beaucoup de blessés et de morts collatéraux dont on ne parle peu, dont on parle trop peu. Et pour finir, moi, j'ai une maman que j'accompagne qui, pareil, sur Marseille, a pris une balle dans la jambe, en fait, bêtement, parce qu'elle se promenait, il y a eu des tirs et elle a pris une balle. Donc, il faut faire extrêmement attention et je pense que le prochain président de la République ou la prochaine présidente devra mettre le doigt vraiment dessus, mais surtout sur la capacité de corruption de ces organisations.
Hervé qui est avec nous de Gironde, de Libourne. Bonjour Hervé.
Bonjour à tous.
Et vous vouliez réagir parce que vous dites faut qu'on change de braquet dans ces histoires, quoi, en fait.
Ben en fait, j'ai vécu au début des années 2000 à New York et je me rappelle avant ça, c'était le maire Giuliani qui était encore en exercice. Et en fait, New York, c'était très compliqué les années 80-90. Il y avait de la pègre, il y avait de la corruption, il y avait des prostituées dans les rues, etc. Et en fait, la seule solution qu'ils ont trouvée, c'est qu'ils s'est mis d'accord avec un des plus gros gangs de l'époque, qui en fait, avec les codes, a nettoyé la ville. C'est-à-dire qu'ils ont traité le mal par le mal. Alors, je dis pas que c'est la solution qu'il faut avoir, mais on est tellement, la situation était tellement incontrôlable. Il n'avait pas de solution légale et normale pour pouvoir tout régler. Et ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, vous allez à New York, et vous êtes en sécurité, vous marchez dans la rue, tout va très bien. Il n'y a pas des gens qui vous proposent... moi, j'habite à Bordeaux, je vais souvent... il y a certains endroits, vous baladez dans la rue, on vous propose du shit, on vous propose tout ça. Tout ça, c'est fini, quoi. Et en fait... Ça a été très dur. Il y a eu des morts. Il y a eu voilà, mais ça a été réglé et sous couvert d'une acceptation politique, de façon à ce que voilà les choses soient soient faites.
Donc faut passer à la tolérance zéro quoi en fait aujourd'hui.
Ben, le problème c'est que on le fait avec notre raisonnement à nous. Et ouais. Ce que disait Abel à l'instant, c'est qu'ils ne sont pas du tout dans ce raisonnement-là. Mmh. Ils sont hors la loi. Quand vous dites il faut mettre l'armée, il y a plein de ah ben non mais oui il faut des gens qui soient.
Mais il faut surtout
à la
non mais enfin, il faut surtout pas, Hervé, il faut du travail de police judiciaire, il faut des témoignages aussi parce que c'est aussi la peur qui règne dans ces quartiers. Or il faut que si on veut démanteler les trafics, ceux qui sont plus ou moins liés au trafic puissent aussi parler, raconter, dire qui en vit. Vous voyez, c'est malheureusement c'est une espèce de toile d'araignée, exactement ce qu'avait mis en place la mafia. Vous avez raison, que ce soit à New York ou en Italie, et on le voit encore du côté de certaines régions d'Italie, même si la Cosa Nostra a été plus ou moins démantelée. Mais Hervé, reste avec nous parce qu'on a Alex qui est fonctionnaire de police et qui connaît ce quartier parce qu'il est à Nice. Bonjour Hervé.
Oui, bonjour Alex.
Bonjour Alex, excusez-moi.
Bonjour à tous.
Bonjour Alex. Oui, vous connaissez ce quartier, qu'est-ce qui se passe alors?
Alors, ce qui se passe, c'est que le problème, c'est que le quartier est tenu par des étrangers en situation irrégulière, comme l'autre quartier à l'est de Nice. Et le problème, c'est que bon, on a beau les attraper, les présenter à l'officier de police judiciaire, mais le problème, c'est que la justice derrière, elle fait pas son boulot. Donc on les attrape 20 fois par semaine peut-être, mais ils sont toujours dehors. Alors des fois, ils vont peut-être faire un petit séjour en centre de rétention administratif, mais à l'issue, ils ressortent.
Et c'est eux qui tiennent les trafics.
C'est pour ça que les commentaires du maire ou le problème d'effectifs sont une réponse très subsidiaire. Le problème, il est structurel, il est dans le fonctionnement de la répression.
Alors après, il manque énormément aussi d'effectifs à Nice. Le problème à Nice, c'est qu'il y a très 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 peu d'effectifs et plus personne ne veut venir bosser à Nice. Pourquoi? Parce que vous prenez par exemple l'exemple de la région parisienne. Un fonctionnaire de police en région parisienne touche 250 euros de plus qu'un policier niçois. Je pense que le niveau de vie à Nice, il est au moins égal à celui de la région parisienne. Largement. Donc c'est compliqué de vouloir venir travailler à Nice, à part les Niçois de naissance. Ouais. Mais sinon, il n'y a plus personne qui veut venir faire ce boulot à Nice.
Mais Alex, j'ai une question à vous poser. Moi, ce qui m'interpelle, c'est le mode opératoire de cette fusillade où on a donc un tueur qui est déposé en voiture, qui prend sa trottinette. C'est pour mieux prendre la fuite, j'imagine, la trottinette, plutôt que repartir en voiture, risquer d'être bloqué dans une rue. Ouais. Et donc il y a aussi ce mode opératoire qui fait que pour la police, ça ne va pas être évident de trouver la façon de récupérer, enfin d'essayer de le courser, peut-être de l'arrêter. Là, on n'a pas pu le faire.
Ah, mais le problème c'est que bon, ils utilisent les trottinettes. En plus, en pleine opération de police dans le quartier, et le problème c'est que vous allez vouloir l'interpeller ou vous allez vous le percuter.
Mais on est dans une guerre. On voit le type en trottinette partir, on le met hors d'état de nuire. Évidemment, c'est des nouvelles lois, mais sinon on ne fera que commenter.
C'est-à-dire qu'il faut lui tirer dessus, quoi.
Allez-y, Alex.
Et le problème, c'est que on va le mettre hors d'état de nuire. Mais le problème, c'est que le policier qui va le mettre hors d'état de nuire, et c'est lui qui va être emmerdé derrière.
Bien sûr. Non, mais c'est tout un changement de loi, bien sûr.
Alex, au début de votre propos, vous disiez le problème, c'est que c'est tenu par des communautés étrangères. On dit comme à l'est de Nice. C'est-à-dire, ce sont quelles communautés qui tiennent ces trafics?
C'est des gens de l'Afrique du Nord. Voilà. Ils vont les chercher à la frontière italienne. Ils les mettent en place dans les quartiers et c'est eux qui tiennent les points de deal.
D'accord. Et à l'est de Nice, c'est lié à la DZ Mafia? C'est lié à la DZ Mafia?
Oh, même pas forcément. D'accord. Pas forcément. Non, c'est un quartier qui s'affaiblit, l'autre qui veut prendre le dessus. Et puis voilà, ça a toujours été la guéguerre entre l'est et l'ouest à Nice.
Merci d'avoir été avec nous, Alex. Merci de nous avoir aidé à comprendre ce qui s'est passé. Merci à Hervé qui veut aussi qu'on passe à la manière forte.